Le message que vous allez suivre est un enseignement du révérend Raoul Ouafo. Recevez cette parole avec foi, elle transformera votre mentalité et affectera votre destinée.
Est-ce que tu peux, s'il te plaît, prendre ta Bible avec moi dans le livre de Luc, en son chapitre 9. Luc, chapitre 9, les versets 23 à 27. J'y êtes? Alors faisons la lecture ensemble. On y va? 1, 2 et 3. Puis il dit à tous: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu, éternel Dieu Tout-Puissant. En ce jour solennel, devant le trône de la grâce, éternel, je viens placer une demande singulière. Merci pour le revêtement d'une onction fraîche. En ce jour, pour enseigner ta parole, véhiculer ton message prophétique, ramener les cœurs sur les standards de la vérité et du royaume, afin que chacun d'entre nous soit véritablement productif pour le royaume et marche dans la réelle puissance de Dieu, quel que soit le secteur de son appel. Oui, Père, donne-nous de comprendre qu'il est nécessaire de payer le prix éternel, Dieu, de la rénonciation à soi, le prix nécessaire pour marcher dans la dignité du royaume et la dignité de l'appel. Le prix nécessaire pour voir la gloire de Dieu attachée à notre vie, car tu as dit dans ta propre parole que le serviteur n'est pas au-dessus de son maître, mais tout serviteur accompli sera comme son maître. Père, je célèbre ton nom, car tu donnes à chacun d'entre nous des serviteurs accomplis pour être comme le maître. Que ton nom soit glorifié. À toi soit la gloire et l'oreille. Merci pour l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Merci d'éclairer nos cœurs, d'illuminer notre homme intérieur par la révélation de la connaissance de ta parole, afin que cette parole crée un changement radical dans les vies de toutes les personnes qui m'écoutent ici, en Asie, en Europe, en Amérique et dans tous les autres pays éternels du monde. Que ton nom soit béni. Père, nous te bénissons pour la puissance incontestable de ta parole, pour la lumière qu'elle contient, pour la vie qu'elle dégage, pour la délivrance qu'elle accorde, pour la restauration qu'elle établit, pour l'élévation éternelle qu'elle provoque, et pour, éternel Dieu, la confusion qu'elle manifeste à l'égard, éternel Dieu, de toutes les personnes qui, hier, ont rejeté l'existence de Dieu. Que ton nom soit béni. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un qui m'écoute dise courageusement amen trois fois. Amen. 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 Dis encore amen trois fois. Amen. 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 Laissez-moi vous rappeler ceci pour certains d'entre vous. Chaque fois que vous dites amen, vous êtes en train de demander aux anges de Dieu qui obéissent à la voix de la parole qui a été relâchée dans les airs, n'est-ce pas, d'opérer, d'amener cette parole à manifestation à votre égard. Parce que la Bible dit que les anges de l'Éternel sont puissants en force et obéissent à la voix de la parole. Donc quand la parole est relâchée, les anges la prennent, la parole de Dieu, et ils courent pour l'exécuter. Et toute personne qui dit amen est en train de dire, exécute cette parole dans ma vie. Amen. Amen. Et que quelqu'un puisse encore dire amen.
Amen.
Alléluia. Que l'Éternel te garde. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Le texte que nous venons de lire est un texte profond. Nous avions pendant les quatre semaines passées parlé avec insistance de l'amour. Ce texte est très très profond. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait lui-même? Avant de donner cet enseignement à ses disciples, le Seigneur Jésus était en train de parler lui-même dans les versets qui précèdent de la souffrance qu'il devait endurer et de la mort qui lui était réservée à la croix. Il a dit qu'il est nécessaire que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit livré entre les mains des sacrificateurs et qu'il soit même crucifié. Et c'est après qu'il dit donc à tous ceux qui étaient autour de lui, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Vous savez qu'aujourd'hui, le vrai problème que nous avons dans l'Église, la raison pour laquelle nous ne voyons pas de puissance, la raison pour laquelle le ciel reste fermé sur la vie de plusieurs, c'est que nous n'avons pas compris qu'il est nécessaire de laisser la place de la croix dans notre vie quotidienne. Une vie où il y a une absence de croix est une vie où il y aura une absence de puissance. Car sans la croix, il est impossible de marcher dans la réelle puissance, n'est-ce pas, qui nous est réservée en tant qu'enfant de Dieu. Donc ce message concerne toutes les personnes qui disent au fond de leur cœur, je suis amoureux de Dieu, je l'aime, je veux vivre ma vie de passion pour lui, je veux payer le prix pour être attaché à mon maître, je veux suivre les pas et l'exemple de mon Seigneur, je veux devenir un vrai disciple. C'est-à-dire un suiveur discipliné de Christ. Parce qu'on peut être né de nouveau et refuser de venir après Christ. Mais Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, car ce que nous voyons est déplorable. Vous voyez, si les personnes comme Étienne, qui est mort, lapidé à cause de la cause de Christ. Étienne, qui était présenté devant les principaux sacrificateurs. Quand on lui a posé la question sur son accusation, il n'a pas essayé de compromettre en disant non, en fait, c'était ceci. Non, il a prêché l'évangile avec courage et zèle. Il a parlé de la venue de Christ, parlant depuis le départ d'Abraham, n'est-ce pas, jusqu'à la crucifixion du Seigneur. Devant les principaux sacrificateurs. Il a rappelé aux principaux sacrificateurs que c'est eux qui ont tué les prophètes. Et quand on a commencé à le lapider, jetant les pierres sur son corps, dans la douleur, la Bible dit que Étienne a levé les yeux, il a vu le ciel ouvert. Et Jésus assis à la droite de Dieu. Pourquoi? Parce que Pierre, Étienne avait le cœur attaché au Seigneur. Et rien ne pouvait le séparer de l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ, son sauveur. Vous voyez, aujourd'hui nous le chantons. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Mais en fait, tous les jours, nous vivons contrairement à ce que nous chantons. Si tu étais à la place de Tienne, n'allais-tu pas compromettre pour laisser ta vie sauve? Et l'apôtre Paul aussi est un autre exemple terrible. D'un sacrifice énorme. La Bible dit de lui, dans 2 Corinthiens 11, verset 24 à 28, il dit, 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1, c'est-à-dire 39 coups, 5 fois de suite. 3 fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la Bible. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Oh là là, j'ai été mis dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. L'apôtre Paul décrit ici son apostolat. Bien-aimé, si aujourd'hui il y a quelqu'un que le gouvernement arrête et fouette deux fois, trois fois, l'église même va dire, on dirait que notre pasteur a un problème. Pourquoi c'est toujours lui qu'on arrête? L'apôtre Paul dit, cinq fois, j'ai été battu 40 coups moins 1. Est-ce que vous me comprenez? 5 fois pour Christ. 3 fois, j'ai fait un naufrage. Sans que ce ne soit, n'est-ce pas, qu'on ne dise, non, c'est sûr qu'il a péché quelque part. C'est pour ça que son bateau a fait un naufrage. Non, il dit 3 fois, j'ai fait un naufrage. Pourquoi? Parce qu'il est installé dans une guerre spirituelle. Mais Dieu a été avec lui. Il dit, j'ai passé un jour et une nuit dans la Bible pour Christ. Fréquemment en voyage. Mis en péril à cause de l'évangile. Vous voyez? C'est ça, véritablement, quelqu'un qui a décidé de marcher avec le Seigneur. Car le Seigneur lui-même nous a donné un exemple incroyable. Vous voyez? Pourquoi? Parce que lui-même, qui était Dieu, il est venu sur la terre. Il n'a pas donné marcher d'égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même de sa condition. Il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Dieu lui-même a accepté de mourir à 33 ans pour que nous puissions, n'est-ce pas, tous être sauvés. Mais il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Bien-aimé, aussi longtemps que ton engagement avec Dieu n'a pas provoqué de renonciation, tu n'es pas encore engagé. On ne peut pas suivre le Seigneur sans avoir renoncé à quelque chose. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je ne renonce pas. D'ailleurs, le sacrifice, c'est le fait de renoncer à quelque chose. Quand on a sacrifié, c'est qu'on a renoncé. D'accord? On a renoncé à quelque chose. Donc, c'est ça marcher avec le Seigneur. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, quand je vois des personnes qui répondent à l'appel de Dieu, beaucoup d'entre eux, ils viennent dire, oh, homme de Dieu, je veux être avec toi, je veux vraiment me soumettre à toi, je veux que Dieu me bénisse comme il t'a béni. Bien-aimé, je vous garantis que l'évangile n'est pas un évangile qui nous réserve uniquement le fait d'être béni. La bénédiction est la conséquence d'un sacrifice qu'on a consenti devant le trône de Dieu. Quand il n'y a pas sacrifice, il n'y a pas réelle bénédiction. Vous savez, certains d'entre vous, vous dites Dieu m'a béni, mais vous êtes en train de manger les miettes. Vous êtes en train de manger la manne et la caille. Vous n'entrez pas dans la possession de vos promesses parce que vous ne payez pas le prix qu'il faut pour pouvoir obtenir ce que le ciel a pour vous. Il faut payer en prix. Dis à ton voisin, il faut payer en prix. Encore, il faut payer en prix. Et c'est pour ça que l'église est faible. C'est pour ça que les gens prient 5 heures, 6 heures, 7 heures et ne voient pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, quand on veut avoir accès à elle, il faut absolument accepter, n'est-ce pas, de payer le prix nécessaire. Et aujourd'hui, certaines personnes pensent qu'on est grand dans le royaume parce qu'on a beaucoup d'argent. C'est faux. Je vous garantis, c'est faux. Il y a des drogués, il y a des vendeurs de drogue qui ont des propriétés, des îles, des hélicoptères, des avions, mais qui ne sont rien aux yeux de Dieu. La grandeur d'un homme, ce n'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent. Non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'il conduit de grosses voitures. Ce n'est pas parce qu'il porte de beaux costumes. Non, ce n'est pas ça qui te fait grand devant le trône de Dieu. La grandeur aux yeux de Dieu, c'est la capacité à garder sa parole. Celui qui garde la parole de Dieu est grand à ses yeux. Garde sa parole. Le diable a réussi à infiltrer l'église. Commencez à nous faire voir les choses. Les gens viennent à l'église simplement parce qu'ils disent, oh Dieu, bénis-moi. Oh Dieu, je veux une maison. Oh Dieu, je veux un mari. Oh Dieu, je veux une voiture. Oh Dieu, protège-moi. Oh, que les sorciers ne me mangent pas. Si c'est simplement la raison pour laquelle tu es dans le royaume, tu es plus que misérable. Le royaume des cieux est un royaume de sacrifice. Quelqu'un veut venir après moi qui renonce à lui-même. Ça veut dire que même si Dieu te disait, je ne te bénirai plus jamais, tu lui dis, Seigneur, au-delà du fait que tu ne me béniras plus jamais, je suis prêt à donner ma vie pour ta cause. C'est ça l'évangile. C'est pas simplement, oui, je reçois. Non, c'est la raison pour laquelle, quand on dit tant de prières, l'église n'est pas remplie. Quand on dit tant de jeûnes, beaucoup de personnes ne jeûnent pas. Quand on dit offrande, beaucoup de personnes sont tristes. Pourquoi? Parce qu'elles viennent dans le royaume pour ce qu'elles peuvent obtenir de Dieu et non pour ce qu'elles doivent donner pour la cause de Dieu. Nous vivons une dispensation et une époque. Bien-aimés, qui précède la venue de Christ sur la terre. Et nous devons tous être prêts à donner quelque chose pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais je vous garantis que personne ne peut rien sacrifier pour Dieu sans que Dieu en retour ne le donne au centuple. Mais je vais plus loin. Un sacrifice qui est fait parce que je calcule sur la récompense que j'obtiens perd la puissance de ce que ça devrait être en tant que sacrifice. Je ne donne pas à Dieu parce que j'ai fait des calculs. Ah ouais, si je donne 1 million, Dieu m'en donnera 10. Et c'est comme ça que vous voyez des gens qui viennent. Oh pasteur, j'ai sémé. Oh, j'ai donné un truc. Oh, ça fait 2 mois. J'ai rien vu. Non, tu n'as pas donné parce que tu veux voir quelque chose maintenant. Tu as d'abord donné parce que tu aimes Dieu. Et même si Satan t'attend, parce que la preuve de ta foi produit la patience. Tu as une confiance en celui que tu es. D'accord? Chaque fois que vous êtes davantage conscient de vos manques, ça veut simplement dire que vous n'êtes pas conscient du prix que vous avez à payer. Parce que le prix que vous avez à payer, quand vous en êtes conscient, alors la conscience de votre manque disparaît. Et vous savez, j'ai vu des prédicateurs, quand ils viennent prêcher, ils ont des formules, ils ont des phrases qui ont été préparées, qui ont été agencées. Ils viennent, souvent même ils copient le message de quelqu'un, ils donnent pour que les gens acclament. J'ai même vu d'autres personnes poster des gens dans la foule pour dire quand je vais parler, crie, crier, taper, acclamer. Non, c'est devenu du cinéma. Vous comprenez, ce n'est pas ça l'évangile. On n'est plus, vous savez, l'évangile où quand on parle, comme j'ai vu plusieurs fois, les personnes s'écroulent sous la puissance de Dieu, terrifiées par la parole, touchées dans l'homme intérieur, parce qu'il y a derrière une puissance qui se dégage. Et chaque fois que vous avez payé un prix pour suivre le Seigneur, quand vous ouvrez votre bouche, vous dégagez l'odeur de sa connaissance. Oui, c'est pour ça que 2 personnes peuvent prêcher le même message et ne pas avoir le même impact. Parce qu'ils n'ont pas payé le même prix au devant des yeux de Dieu. Et là encore, vous voyez aussi, on dit, ok, ceux qui ont 1 million, venez. Et il y a des bénédictions pour 1 million, les bénédictions pour 500 000, les bénédictions pour 200 000. Non, 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 non. Bien-aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. L'absence de la croix a créé la perversion dans l'Église. Écoutez-moi très bien. Une grande offrande devant le trône de Dieu n'est pas déterminée par le montant qu'on apporte à Dieu, mais plutôt par le montant qui reste dans nos poches après qu'on ait donné. Ça veut dire quoi? Si je donne 1 million alors que j'ai 100 millions et quelqu'un donne 500 000 alors qu'il a 700 000, celui qui a donné 500 000 a plus donné que celui qui a donné 1 million. Donc c'est stupide de dire. Celui qui a donné 1 million aura une prière plus spéciale, plus particulière. On passe 10 minutes sur lui. Celui qui a donné 500 000, on dit que Dieu te bénisse. Non, c'est non, 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 non. Et ce qui me choque, c'est qu'il y a des personnes mal enseignées qui sont toujours avides des gains sordides et des gains malhonnêtes. Parce que en fait, quelque part, c'est parce que nos cœurs sont pervertis que nous réussissons à être dupés par des prédicateurs véreux. Qui prêchent l'évangile pour leur ventre et non pour la croix, qui ont cassé la croix du Seigneur et ont dit, nous ne voulons pas en parler. Nous sommes simplement là pour jouir de l'évangile et faire pousser nos ventres. Et Jésus, il n'a qu'à se débrouiller. Non, ce n'est pas pour ça qu'on est dans l'évangile. Il faut payer un prix. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et ça, c'est très important. Et vous savez, vous allez vous rendre compte qu'il y a des églises qui sont grandes et très grandes, où même le pasteur ne s'est pas évangélisé. Des églises grandes qui ne se sont jamais construites sur l'évangélisation. On a mis toutes les stratégies en place pour gagner les membres des autres églises. Alors par conséquent, comme les gens ne croient plus à la croix, ils s'étirent entre eux-mêmes. Oh, tel n'est pas correct. Oh, tel ne fait pas ci. Oh, ce que tel fait n'est pas bon. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ce n'est plus différent des marketistes qui sont à la télévision, qui parlent de leurs produits. D'accord? On parle de tout, sauf de Christ. On parle de notre église. On parle de notre pasteur, on parle de notre crime, on parle de ceci. Non, sans parler de Christ, l'élément central de notre message. Et donc, on prend les gens qui sont venus de gauche, on prend les gens qui sont venus à droite, on dit, oh non, telle personne n'est pas bon, parce qu'on veut récupérer ses membres. En fait, qu'est-ce que ces gens recherchent? Sans l'avouer, ils recherchent leurs propres intérêts. C'est pourquoi, moi j'ai causé avec beaucoup d'entre eux. Et ils vous disent, non, moi je n'ai pas envie que les gens sachent comment est-ce que je suis béni. Mais si Dieu t'a vraiment béni, pourquoi tu caches? Pourquoi tu caches? Et il y a des gens qui disent, oh mais c'est pas normal, Wafo il roule en Porsche, il roule en ci. Mais dans leur compte bancaire, ils ont de l'argent plein. Mais ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils savent que ce n'est pas honnêtement acquis. Comment est-ce qu'on a fait pour savoir qu'Abraham était riche? Comment est-ce qu'on a fait pour savoir que Salomon était riche? Comment est-ce que les richesses de David ont été nommées? Parce qu'ils étaient transparents. Ils étaient transparents. On ne cachera pas les bienfaits et la fidélité de Dieu dans la grande assemblée. Est-ce que vous me comprenez? Ils étaient transparents. Vous voyez? Et donc, la transparence doit commencer dans l'église. Elle doit commencer dans l'église. On a beaucoup d'hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'il y a absence de la croix. Bien-aimé, quelle que soit la richesse que Dieu me donnera, jamais, et ça c'est ma prière devant le trône de Dieu, la richesse ne prendra sa place. Je veux mener une vie où la croix est l'élément central de ma vie, le matin et le soir. Ça c'est ma prière devant le trône de l'Éternel. Et je crois pour ma part que si Dieu m'a élevé, que si Dieu m'a béni, il a voulu faire de ma vie parce que ça lui a plu. Un exemple de sa fidélité. C'est tout, bien-aimé. C'est rien d'autre. Et j'en suis conscient. Je ne suis pas meilleur que quiconque. Non, mais la grâce de Dieu m'a été accordée. Afin que l'Église se rende compte que quelqu'un qui paye le prix, le ciel peut être avec lui. Est-ce que vous me comprenez? C'est tout. Et j'en suis conscient, bien-aimé. Et vous voyez, donc c'est important de comprendre que nous devons garder la croix comme élément central. Et je crois que le diable a réussi quelque chose de fort. Il a réussi à affaiblir l'Église. Il a réussi à amener l'Église à se détourner de l'essentiel. Il a sorti l'Église de ce que devrait être sa mission centrale. Et là, je vous dis, il a vraiment réussi. C'est pourquoi, regardez aux États-Unis, les plus grandes églises, les plus grands pasteurs, d'autres ont 3 diètes, d'autres ont 50 000 membres, dans une église, dans une nation pareille, on vote une loi claire et on rétablit l'homosexualité. Et l'église ne bouge pas. L'église ne se met pas ensemble pour aller dans un stade et prier. Personne ne veut être avec l'autre. Pourquoi? Parce que chacun est en train de construire sa tour. Chacun est en train de construire son royaume. Les intérêts de Dieu ne sont plus ceux qu'on poursuit. Les gens courent après leurs propres intérêts. Ce n'est pas ça le royaume des cieux. J'ai même vu des personnes qui même ont le dédain, pasteur pour leurs membres, dédaigné. C'est-à-dire vous sentez de l'orgueil rempli, la coupe d'orgueil déborde, même pour le fidèle. Et ils sont dans le ministère. Ce n'est pas ça, marcher avec Dieu. Nous devons apprendre à payer le prix. Et vous savez, le fait de chercher la puissance de Dieu, nous devons encore savoir quelle est notre motivation. Il y a des gens qui cherchent la puissance de Dieu parce qu'ils veulent, ils veulent la renommée. Ils savent que s'ils ont fait 2 ou 3 miracles, la télévision va venir. Mais non, mais quand Jésus faisait des miracles, il dit, ne racontez même pas aux gens. Ce n'était pas sa préoccupation qu'on parle de lui. Mais sa préoccupation, c'était que la parole et la puissance de Dieu ramènent le cœur des hommes vers leur Créateur. Nous devons faire attention à nos motivations. Est-ce que la croix reste l'élément central de notre marche avec Dieu? Chacun d'entre nous doit ramener la croix dans sa vie. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ça veut dire que chaque jour, chaque matin, nous devons nous engager consciemment dans une vie sacrificielle. Une vie où nous renonçons à quelque chose. Ça peut être un ami, ça peut être une relation, ça peut être un travail. Ça peut être ton argent, ça peut être beaucoup d'autres choses auxquelles je t'appelle à renoncer. Qu'il renonce à lui-même. Dites-moi, bien-aimé, quand Moïse a découvert qu'il était hébreu et qu'il n'était pas égyptien, bien qu'il ait été élevé dans toute la science de l'Égypte, quelle a été sa réaction? Est-ce qu'il a dit, ok, je vais quand même rester dans les palaces dans lesquels je me trouve? Non, il est allé par sa propre force, il a tué un Égyptien qui était en train d'opprimer un Hébreu. Et après, il a vu 2 Hébreux qui étaient en train de lutter, il a séparé. Pourquoi? Quand il a pris conscience de sa réelle identité, il s'est identifié à son peuple. Et la Bible dit que devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a renoncé à quelque chose. Vous voyez? Il a refusé d'avoir pour un temps la jouissance éphémère du péché. Et même mieux, être maltraité avec le peuple de Dieu. Donc il y a des moments où notre appel peut nous amener même à vivre des situations douloureuses. Je vous dis bien douloureuses. Le temps me manquerait pour vous donner des témoignages personnels. Des choses que j'ai endurées dans l'évangile, pour l'évangile, et à la cause de Dieu, bien aimé, mais avec joie, une joie profonde, de savoir que ces choses aussi m'arrivent, parce que je suis le chemin du Seigneur. Donc, nous ne sommes pas dans un évangile où, alléluia, alléluia, amen, Dieu, bon, il m'a béni, il m'a donné tel argent, il m'a donné telle voiture, il m'a accordé la promotion, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais non, nous devons avoir la joie de savoir que nous avons renoncé à quelque chose pour le Seigneur. Que j'ai mis de côté quelque chose parce que je l'aimais. Donc si je l'aime vraiment et que je veux vivre pour lui, je dois payer un prix. Je dois payer un prix pour marcher avec lui. Et le prix peut être que vous êtes tous à des postes stratégiques. Et quelqu'un arrive avec une enveloppe de 50 millions justement parce qu'il veut avoir, il veut faire la corruption. Personne ne te voit. Toi seul est assis à ce poste. Ton voisin de gauche a dit oui. Il a déjà eu son jet privé. Il a déjà construit ses châteaux. Mais toi, maintenant, tu es là, on t'apporte le même argent. Tout le monde fait comme toi, mais tu n'es pas comme eux. En ce moment précis, c'est là où Dieu voit si tu es vraiment avec lui. Si tu l'aimes vraiment. Si tu es prêt à porter ta croix. Si tu peux le suivre. Es-tu prêt à renoncer? A dit non, je ne le ferai pas parce que je l'aime. Est-ce que vous savez qu'un seul acte de bravoure pour Christ vis-à-vis de quelqu'un est suffisant pour tourner son cœur vers Dieu. Souvent, nos actes parlent à l'égard de ceux qui les posent et qui veulent nous pousser dans une voie contraire. Combien de filles courageuses ont dit à leur patron, « Voilà, je t'ai préparé ma lettre de démission. Je suis fatigué d'être harcelé par toi, je marche avec le Seigneur. Signe-la si tu veux, c'est sur ta table. Le jour où tu voudras, je partirai d'ici. Ma vie n'est pas entre tes mains mais entre les mains de mon Dieu. » Combien de personnes payent un prix pareil? Parce qu'ils aiment Dieu. À quoi tu as renoncé en un seul jour? Parce que tu aimes le Seigneur. Quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il s'échange chaque jour de sa croix. Donc Jésus disait, j'ai porté la mienne, je la porterai, je l'annonce, je le ferai. Mais sachez que chacun d'entre vous, vous avez votre propre croix à porter. Ne vous réjouissez pas simplement de ce que j'ai porté la mienne, mais chacun d'entre vous devra porter la sienne. Et il y a une croix que chacun d'entre nous devra porter. Porter sa croix pour suivre le Seigneur. Parce que justement, on est enfant de Dieu. C'est aussi ça notre joie. C'est aussi ça notre engagement. C'est aussi la raison pour laquelle nous sommes dans le royaume des cieux, n'est-ce pas? Parce que nous devons porter notre croix. Et suivre le Seigneur. Pourquoi est-ce que le diable va s'arranger à ce que tu ne portes pas ta croix? C'est parce qu'il sait une chose, note-le, que le sacrifice libère la puissance de Dieu. Le sacrifice libère la puissance de Dieu. Le sacrifice libère la puissance de Dieu. Et c'est un principe spirituel. Quand il y a un sacrifice, la puissance est libérée. Même dans le monde occulte, quand vous allez voir un féticheur, quand vous allez chez un marabout, quand vous allez voir Satan pour avoir le pouvoir, pour avoir l'argent, pour avoir la renommée, pour avoir une position élevée, qu'est-ce qu'il demande? Est-ce qu'il te demande de chanter? Est-ce qu'il te demande de sauter? Qu'est-ce qu'il demande? Que quelqu'un me réponde dans la salle. Un sacrifice. Certains d'entre vous, vous le dites parce que vous y étiez. Un sacrifice. Heureusement que vous n'y êtes plus et que vous avez été délivré. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Amen. Dans certains d'entre nous, nous avons été la peau déchiquetée par les féticheurs. On a versé le sang des corps sur nos têtes et on nous a baigné dans la cendre. On nous a gardé 7 jours sans nous laver en nous disant qu'on nous protégeait de la puissance, n'est-ce pas, des ténèbres. Et un sacrifice avait été fait pour qu'une certaine puissance soit libérée. Mais mes nuits étaient toujours hantées. La peur résonnait dans mon cœur. Chaque fois que j'entendais le tonnerre, les éclairs, je me cachais, j'avais l'impression que le ciel me cherchait pour me zigouiller, pour me trancher la tête. Et mais quand j'ai rencontré Jésus, quand j'ai connu le sacrifice parfait, quand j'ai su qu'il est mort à la croix pour moi, quand j'ai su que son sang s'est versé et que le sang qu'il a versé était plus grand, plus puissant, plus précieux que le sang des boucs, des taureaux, des animaux, de toutes terrelles, des coqs et des poules. J'ai levé mes mains vers le trône de l'Éternel et je lui ai dit, Seigneur, prends ma vie à jamais. Donc je te la donne comme un sacrifice vivant afin que tu en fasses ce que tu veux. Bien-aimé, le sacrifice libère une puissance. Et c'est pour ça que le diable fera tout pour t'empêcher de vivre une vie de sacrifice. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que tu ne vis pas cette vie, tu marches dans la petite puissance. La vraie puissance de Dieu, tu ne la connais pas. La puissance est libérée par le sacrifice. Une belle histoire de 2 Rois 3, versets 26 à 27. La Bible dit que le roi de Moab, qui était persécuté par le roi d'Israël, il était en train de perdre la guerre. 2 Rois 3, versets 26 à 27. Il perdait la guerre. Et il sentait qu'il ne pouvait rien contre cette armée qui était contre lui. La Bible dit, le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi des Dômes, mais ils ne purent pas. Il prit alors, suivez bien, il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Il était oppressé. La guerre était perdue. Il n'avait pas les moyens pour pouvoir remporter le combat. Il a pris 700 hommes. Il a pris son fils, il l'a mis sur la muraille. Dès que le fils a été sacrifié, l'indignation s'est emparée du peuple d'Israël. Je vous pose une question. Est-ce que le peuple d'Israël allait les faire un cadeau s'il le trouvait? Est-ce qu'il ne venait pas les tuer? Mais pourquoi est-ce que la mort de son fils a fait cesser le combat? Parce que quand le fils est allé sur la muraille, le sacrifice présenté a libéré la puissance de Dieu qui a touché le cœur du peuple d'Israël qui est rentré. Vous voyez? Et qui l'a laissé seul. Chaque fois qu'il y a un sacrifice présenté à Dieu, la puissance est libérée. Et l'adversaire est mis en déroute à cause de ton sacrifice. D'accord? Donc je veux te dire que le sacrifice de Christ est suffisant pour ton salut, mais insuffisant pour ton épanouissement sur la terre. Il faut plus que ça. Il faut ajouter à son sacrifice ton propre sacrifice. Je me rappelle, jeune zélé, jeune prédicateur ambitieux, rempli d'un désir naïf, mais vrai, d'aller dans le champ de mission pour Dieu. Je me suis levé dans ma chambre et je commençais à dire, « Oh Dieu, envoie-moi où tu veux, montre-moi le pays. » Le zèle de la maison de Dieu me dévorait. Et cette nuit-là, Dieu ne s'est pas pressé de me dire où il veut que j'aille. Parce qu'il avait compris que j'aurais été un tambour qui résonne, les reins qui retentit, une cymbale qui fait du bruit, si je n'avais pas appliqué la notion du sacrifice. La première chose que Dieu m'a demandé, c'était pas, oh, bon, va en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, première chose que je te demande, apporte-moi ta famille en sacrifice sur l'autel de la consécration. Organise les funérailles des membres de ta famille. Ça, c'était dur. Pourquoi? Parce que j'étais désigné comme l'héritier de ma famille, comme le successeur de mon père. Pourquoi? Parce que, vous savez, les liens parentaux sont forts. Et souvent, la culture et la tradition nous lient fortement à notre héritage parental. Et il pose sur l'autel. Ta famille organise les funérailles. Qu'est-ce que Dieu voulait me dire? Que tu ne peux pas être utile dans les nations si tout le temps tu penses à ta mère et à ton père et à tes frères que tu as abandonnés dans ton pays. Organise les funérailles, qu'il meure à tes yeux. Alors entre mes mains, tu seras utile. Libère ce sacrifice afin que ma puissance t'accompagne dans le champ de mission. Et j'ai organisé les funérailles. J'ai commencé à pleurer pour les membres de ma famille. J'ai senti une douleur, ce n'était pas personnel, mais c'était spirituel. Je l'ai ressenti fortement. J'ai pleuré dans ma chambre. Ce jour-là, à mes yeux, mon père, ma mère, mes soeurs, mes frères, tout le monde était mort. Ils étaient morts ce jour. Si aujourd'hui je les vois, c'est une résurrection. Ah, à mes yeux, ils sont vraiment morts. Donc quand je les regarde, je ne les regarde pas simplement comme mes simples frères. Je les regarde avec les yeux et le jugement de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai accepté de payer le prix. Et c'est ainsi que Dieu m'a envoyé. Quand je suis arrivé dans cette nation, je ne connaissais personne. J'ai dit bien personne. Je n'avais aucune adresse, sauf celle d'un pasteur que je n'avais jamais vu, qui m'avait été remis par un de mes pasteurs au Cameroun, qui m'a gentiment récupéré à la gare de bus et qui est allé me déposer chez des réfugiés et qui m'a dit au revoir. Et qui évitait soigneusement de me rencontrer parce que j'étais en problème. Personne n'aime avoir des problèmes entre ses mains. Les gens aiment la solution et la victoire. Parce que l'échec est orphelin et le succès a beaucoup de pères. Est-ce que vous me comprenez? Quand même les personnes qui te connaissent renient, n'est-ce pas, le fait de te connaître. Et tu deviens frustré. Alors je me suis rabattu sur Dieu lui seul. Et j'ai dit, si personne ne veut reconnaître que Dieu m'a appelé, c'est lui qui m'a appelé à ses responsables pour prendre soin de moi. Bien-aimé, aujourd'hui, on a beaucoup de prédicateurs dont les messages sont dilués, faibles, ne font aucun impact. Ils sont comme s'ils versaient de l'eau sur le dos du canard parce qu'ils n'ont payé aucun prix. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Le prix libère la puissance. Je vous pose une question. Quand Abraham a donné son fils unique, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'Abraham est devenu? Est-ce que tu le connais? Qu'est-ce qu'il est devenu? Le père de la foi. Pourquoi? Pas pour les choses qu'il a obtenues de Dieu, mais pour celles qu'il a données. Aujourd'hui, on dit, c'est un père parce qu'il roule en Porsche. Non, je ne suis pas un père parce que je roule en Porsche. Je suis un père parce que mon cœur est sur l'autel. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Les biens matériels ne peuvent pas faire de toi un père. Ne t'établisse pas dans le règne spirituel. C'est qui te donne la puissance et l'autorité. Qui te donne de parler et que les gens se rendent compte que Dieu est là. C'est la qualité de ton sacrifice. Et non ce que tu possèdes. Écoutez, arrêtons la fanfaronnade et, je ne sais pas, le jeu dans l'évangile. Il y a des gens tellement affaiblis et emportés dans la tromperie de Satan. On m'a commencé à parler de leurs costumes, parler de leurs chaussures. Comme si la valeur de l'homme était rattachée à ce qu'il porte. Non, moi j'ai dit une fois, bien aimé, je ne parlerai jamais de mes costumes. Parce que mes costumes ne cessent de parler de moi au pressing. C'est eux qui racontent aux autres costumes qui sont portés par moi. Ce n'est pas à moi de dire je porte tel costume. Parce que je suis l'autorité. Et il faut connaître la notion du sacrifice. Est-ce que ça va? Le sacrifice est important. Le sacrifice est important. Il faut connaître ce que c'est que le sacrifice. C'est très important. Donc Abraham est appelé père de la foi. Pas parce qu'il a eu beaucoup de biens, mais parce qu'il a sacrifié ce qu'il avait pour Dieu. Ça fait de lui un père. Et la Bible dit dans Philippiens 2, verset 6 à 9, « Lequel existant sous forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, ayant paru comme un simple homme. » Oh, j'aime ce texte. La Bible dit, « Il s'est humilié lui-même. » En se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention du nom de Jésus, toujours lui fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tellement, vous voyez, le sacrifice était grand. Abraham a donné son fils et Dieu l'a fait Père. Jésus s'est donné lui-même et Dieu l'a fait Seigneur. Oh là 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 là. Père parce qu'il a donné son fils, Seigneur parce qu'il s'est donné. Plus je donne, mieux je monte en autorité. Mieux je monte en rang et en élévation devant le trône de Dieu. D'accord? Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Savoir se donner lui-même. Et la Bible dit qu'il s'est dépouillé. Il s'est humilié lui-même. Ça veut dire que personne ne l'a forcé à le faire. Il s'est dépouillé lui-même. Il a accepté volontairement. Ce ne sont pas les défis de la vie qui ont fait de lui ce qu'il a été. Il s'est dépouillé lui-même. Il y a des gens, Dieu est obligé de te faire passer dans les épreuves pour que tu apprennes l'humilité. Mais Jésus n'a pas, ce n'est pas des épreuves. C'est lui-même qui dit, j'accepte de passer par là. Donc il invite même l'épreuve pour dire, venez, je suis prêt. Je veux passer par là pour marcher dans la plénitude de ce à quoi Dieu m'a appelé. Il a renoncé à sa divinité en devenant un homme. Il était Dieu. Pour ceux qui ont un problème au fait que Jésus soit Dieu, Jésus était Dieu. Il était Dieu. Il a accepté volontairement de se dépouiller de sa position de Dieu. Il était Dieu. Quand au commencement était la parole, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, clair. Il n'y a pas d'argumentation là-dessus. Jésus était Dieu. Que vos cœurs ne se troublent pas et ne s'embrouillent point sur ce point. Il était Dieu. Mais il s'est dépouillé de sa condition de Dieu. Il est devenu semblable à un homme volontairement. Et en tant qu'homme, il n'est pas fait roi. Il n'a pas vécu comme un roi sur la terre. Non, il s'est encore humilié. D'accord? En devenant obéissant jusqu'à la mort, sur la croix comme un brigand. Donc, volontairement, il a accepté. Car au jardin de Gethsémané, il pouvait lever son doigt et appeler toute la puissance de Dieu pour foudroyer les gens qui étaient. Mais il n'a pas levé la main. Pourquoi? Parce qu'il fallait payer le prix. D'accord? Et certains d'entre nous devons comprendre cela. Le diable va tout faire. J'ai dit bien, note-le, il va tout faire pour s'opposer à ton sacrifice. Le diable va tout faire pour s'opposer à ton sacrifice. Mais elle dit, après moi, il n'y arrivera pas. Car je veux m'engager de cœur à marcher avec mon maître. Oh, dis-le comme si tu le penses, mon frère. Alléluia. Donc, le diable va s'opposer à ton sacrifice. Vous voyez, quand Jésus a parlé d'aller à la croix, vous savez que tout de suite, de se donner en sacrifice, le diable savait ce qu'il y a derrière. Et il a tout fait pour empêcher que cela n'arrive. Dans Matthieu 16, verset 22 à 23, Matthieu 16, verset 22 à 23, la Bible dit, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu de paix, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, écoute le mot, tu mets en scandale. Comment peux-tu oser vouloir empêcher que je fasse ce qui est plus essentiel à mon appel, c'est-à-dire me sacrifier? Tu es en scandale, tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ça veut dire qu'aussi longtemps, vous voyez, que nous ôtons le sacrifice de notre marche avec Dieu, nous sortons du plan parfait de Dieu et nous opposons la pensée de Satan. Car il faut le sacrifice dans notre marche. Et vous savez que Pierre était l'assistant, c'est le révérend Pierre, l'assistant auprès de son maître. Et pendant qu'ils sont en train de parler, il prend le maître de côté et dit, écoute le gars. Et c'était bien le révérend, il dit, maître, n'en plaise au Seigneur, tu ne vas pas aller jusque-là. Et vous savez, ça se voit aujourd'hui dans l'évangile. Ah non, mais comment tu peux laisser un travail comme ça pour aller servir Dieu? Comment tu peux quitter pour aller dans un autre pays que tu ne connais pas? Comment tu peux faire ci? Comment tu peux laisser un homme pareil passer? Est-ce que tu es sûr que tu trouveras un autre? Oui, cet homme païen. Je n'ai pas de choix. Est-ce que vous me comprenez? Le sacrifice. Le sacrifice. Qu'est-ce que tu es à même de perdre pour Dieu? Vous comprenez ce que je veux dire? Et il y a des moments, bien-aimés, où à certains d'entre vous, je suis en train de parler prophétiquement sous l'onction, certains d'entre vous vont être amenés à démissionner de vos lieux de service pour aller servir Dieu. D'autres vont cumuler les deux fonctions, en même temps pasteur et en même temps à la fonction publique. Que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Ce qui est sûr, c'est que le sacrifice va y être. Amen. Oh non, pasteur, je n'ai pas eu assez de temps. J'ai été occupé ici, j'ai été occupé là-bas. C'est pour ça que je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, s'il y a quelque chose que tu fais sur la terre qui t'empêche de sacrifier pour Dieu, alors cette chose n'est pas de Dieu. Je te garantis que l'auteur de celui qui t'empêche de sacrifier, c'est le diable. Il empêche ton sacrifice. Souvent, vous savez, dans ma chair, je me dis, oh, j'aurais été plus à l'aise. En tant qu'homme d'affaires, courant sur toute la planète, gagnant des contrats, bâtissant des empires, devenant extrêmement riche et tout. J'aurais été très riche si j'étais simplement dans les affaires, parce que l'intelligence m'a été accordée. Mais à bien y réfléchir, j'ai dit, cette intelligence m'a été accordée parce que j'ai obéi. Donc tout est vanité. Donc je suis heureux de faire ce à quoi il m'a appelé. Même si souvent c'est pénible. Le travail des yeux, nous le ressentons de la joie, mais mêlé de souvent de douleur à cause du sacrifice que cela demande. Vous ne savez pas ce que c'est quand vous êtes assis chez vous et que vous entendez dire « Oh, ce gars est un blasphémateur. Oh, ce gars est un sorcier. Oh, ce gars est un féticheur. Oh, ce gars est un... » Et vous savez, que vous savez quel prix vous payez pour l'évangile. À des moments, vous dites « Seigneur, mais comment tu laisses faire ces choses ?» Et le Seigneur te rappelle que si on a fait ça au bois vert, quand sera-t-il du bois sec ? Que si tu veux venir après moi et que tu ne veux pas qu'on fasse ça de toi, alors tu deviens mon grand frère. Mais si tu veux que je reste ton maître, tu dois ressembler à moi. S'ils ont mal parlé de moi, ils vont mal parler de toi. Un jour, Jésus m'a dit, même après ma mort, ça n'a pas suffi. Il continue d'écrire sur moi et je n'ai rien dit. Est-ce que vous me comprenez? Donc, bien aimé, quand vous comprenez ces choses, et je vais vous dire une chose, quand vous n'acceptez pas l'épreuve, vous sortez, vous ratez l'opportunité de la puissance qui peut vous être donnée. Vous ne pouvez pas savoir quelle force spirituelle vous avez. Quand les gens vous critiquent, quand les gens vous médisent, quand les gens disent ça et que vous fermez la bouche, vous devenez vraiment semblable à Christ. L'onction qui est revêtue sur la vie de quelqu'un, c'est la conséquence des épreuves qu'il a successivement triomphé, auxquelles il a triomphé, pour Christ, de manière sacrificielle. J'ai des amis en griffe qui eux-mêmes, sur leur propre chair, ont dit « Oh, est-ce que vous-même, vous ne trouvez pas étrange que quelqu'un comme ça peut devenir subitement riche, on ne sait pas d'où son argent vient. » C'est des amis, c'est des potes qui me voient et me saluent. Quand ils voient « Oh, Bishop !» Mais dès que tu tournes le dos, paf, c'est un venin. Mitraillette qui est tirée dans ton dos. Mais gloire à Dieu. Parce que toutes les personnes qui tirent derrière, ils ont affaire à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est le seul endroit de mon être où il n'y a pas d'arbre pour me défendre. Devant, j'ai le bouclier de la foi. Derrière, c'est vide. Parce que c'est la responsabilité de Dieu de défendre toutes les personnes, amen, qui ont tourné le dos. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, tout ce qui se fait dans mon dos, c'est le maître qui traite ça. Je ne réponds pas à ces personnes frustrées, à des personnes jalouses. Est-ce que vous me comprenez? À des personnes envieuses, à des personnes qui veulent être là où je suis. Amen, mais j'ai dit une chose, payons le prix. Payons le prix. La récompense est que non, il faut payer le prix. Rappelez-vous que le diable a voulu empêcher Jésus de payer le prix. Si Jésus avait fait tous les miracles qu'il avait fait, mais qu'il n'était pas allé à la croix, il n'aurait pas réussi sa mission. La croix est essentielle pour la réussite de toute mission sur la terre. Il faut la croix. Il faut la croix. Il faut la croix. Je dois payer le prix pour accomplir ma destinée sur la terre. Veux-tu aller au ciel comme un enfant de Dieu faible qui n'a pas eu d'impact? Alors évite la croix. Mais si tu veux mener une vie d'influence, une vie sacrificielle, il faut absolument que tu portes ta croix. Tous les jours. Quand devant les hommes et sans les hommes. Mais constamment devant Dieu que tu portes ta croix. La Bible dit le diable ayant élevé dans Luc 4 verset 5 à 8. Lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes. Vous voyez, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Et la Bible dit, si donc tu te possèdes devant moi, elles seront toutes à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien aimé, je n'ai pas envie de ce que le diable est capable de me donner si ça m'évite la croix. Il dit, prosterne-toi devant moi. Je n'ai pas envie de ce que le diable me donne. Le Dieu que tu sers est capable. Je veux te dire, il est capable. On ne chante pas simplement, il est capable, mais Dieu est capable. Il est capable de t'élever de façon la plus spectaculaire, de te bénir de la façon la plus surprenante. Et je veux te dire une chose, quand tu décides de payer le prix, Dieu va faire de ta vie une vie de distinction réelle. Il va l'arroser par sa propre main. Ce sera son propre jardin. Ta vie deviendra le verger de l'Éternel. Amen. Et tes bénédictions les poussent que l'Éternel est capable de faire grandir. Afin de montrer au monde qu'il y a un Dieu qui est capable de récompenser ceux qui ont le cœur entier à lui. Est-ce que ça va? Oui, pasteur. J'ai cru en Dieu. J'étais deuxième femme. Et maintenant, j'étais maîtresse. Hein? Le problème que j'ai, c'est que je ne sais pas si je laisse investir, comment je vais faire pour payer mon loyer. Mon ami, à ma soeur, je ne sais pas comment je vais payer mon loyer. Tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer. Entre payer ton loyer et aller en enfer, qu'est-ce qui est agréable? Je ne sais pas. Pasteur, il faut me comprendre. Hein, pasteur, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous comprenez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut porter la croix. Ah, pasteur, mets-toi à ma place. Non, chacun a sa place. C'est chacun qui porte sa croix. Mets-toi à ma place. Non. Non, non, non. Non. Est-ce que vous me comprenez? Non, 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 je ne me mets pas à ta place. Je ne suis pas à ta place. Je suis à la mienne. D'accord? Oh, je ne me mets pas à ta place. Ce qui est clair, c'est que tu dois porter ta croix. D'accord? Et suivre le Seigneur. Donc, chacun doit payer son prix. D'accord, on doit payer son prix. Jésus n'a pas évité la croix, mais il est resté sur la croix. Il a accepté de porter sa croix et d'aller faire ce à quoi Dieu l'a appelé. Vous voyez? Et la Bible dit qu'il n'a pas accepté. Vous voyez? Le diable peut te donner des choses, mais je te garantis que chaque fois qu'il te propose quelque chose, c'est simplement parce que tu l'as déjà dans le plan parfait de Dieu. Il ne peut jamais te proposer quelque chose qui ne t'est pas déjà réservé. Je dis bien jamais. Vous n'avez pas vu des femmes qui vont chez les marabouts pour avoir des maris et non pas? Pourquoi est-ce que le diable se précipite pour te donner quelque chose? Pourquoi? Parce qu'il veut précéder Dieu dans son action. Et il sait que si tu attends un peu, c'est que Dieu va t'amener. Les gens de ta famille vont s'appeler à 2h du matin. Ils ne vont plus dormir parce qu'ils ne comprendront pas ce qui t'arrive. Est-ce que vous me comprenez? À 2h du matin, ils vont s'appeler. Pour dire que tu ne trouves pas que depuis qu'elle est entrée dans leur truc-là, est-ce que tu crois que ça, c'est encore la prière? Non, ce n'est pas une affaire d'encore la prière. Ce n'est plus la prière. C'est la dimension où tu nages dans l'océan de la gloire. Ce n'est plus la prière. Amen. Tu es dans la gloire. Tu nages dedans. Parce qu'il y a des gens qui obtiennent des choses parce qu'ils prient. Nous autres comme ça, ce n'est pas parce qu'on prie, c'est parce que nous aimons Dieu et que Dieu nous aime. Moi, je n'obtiens pas les choses parce que je prie. J'obtiens les choses à cause de mon alliance avec Dieu. Ce n'est pas la prière. Donc, il y a des choses, je vous garantis, ce n'est pas la prière. Il y a la majorité des choses que j'ai, je n'ai pas demandé. Mais Dieu m'a regardé et dit, commande spéciale, ange Gabriel, qu'est-ce que tu attends? Tu n'as pas vu Wafo à Abidjan? Dépêche-toi, balancez ça de l'autre côté. Tu n'as pas vu ce gars? Parce que chaque fois que ta vie est une vie sacrificielle, tu attires l'attention du ciel. Chaque personne qui mène une vie de sacrifice attire l'attention de Dieu sur sa vie. Amen. Et on va dire, non, c'est sa grâce. Il a la chance. Non, Dieu ne fait exception de personne. Tu veux voir les mêmes grâces que moi? Paye le prix que j'ai payé. C'est important de payer le prix, bien-aimé. C'est important. Paye le prix pour voir la main de Dieu. Ce n'est pas être sur ta vie. Je termine en te posant la question. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche de payer le prix? La Bible dit, si ta main gauche est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que tu fais? Coupe-la et jette-la dans le feu. Car mieux vaut entrer manchot dans le royaume que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne. Tes yeux, occasion de chute, crève-les. Autant entrer aveugle dans le royaume que d'avoir les deux yeux et mourir dans la géhenne. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller à Dieu? Et la Bible dit dans Luc 9, 58 à 62, que Jésus répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Et il dit en autre, suis-moi, il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. En autre lui dit, je te suivrai, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Le premier, le scribe, a dit, Seigneur, je te suivrai partout. Jésus lui a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du nid ont des ciels ont des nids. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Quand cet homme a posé la question, les renards se reproduisent dans leurs tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids où ils s'accouplent avec leurs femmes. Et, n'est-ce pas? Et ils font des enfants. Mais moi, je ne suis pas allé en mariage, je ne vais jamais me marier. La seule raison pour laquelle je suis venu en tant que Christ, ce n'était pas pour avoir des châteaux sur la terre, mais c'était pour faire des disciples capables d'influencer cette nation, dans le monde entier, et de ramener le royaume de Dieu sur la terre des hommes. Alors moi, je n'ai pas là où reposer ma tête, Mais jeune homme, scribe, merci de m'avoir donné ta vie, comme, n'est-ce pas, une demeure dans laquelle je viendrai m'accoupler et faire de toi un petit Christ. Je veux me reproduire en toi, de façon que quand les gens te verront, ils diront, nous avons vu Jésus. Quand vous voyez un oisillon, il ressemble à un oiseau. Un fils du renard ressemble à un renard. Et quiconque suit le Seigneur finit par ressembler au Seigneur. Parce que quand on le suit, il se reproduit en nous. Et donc un autre jeune homme à qui Dieu dit, suis-moi. Jésus lui dit, suis-moi. Il lui dit, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Mais en fait, ce qu'il était en train de dire, l'expression publique était, laisse-moi recevoir mon héritage parental et puis je vais te suivre. Car il attendait l'héritage de son père. Mais si Jésus te dit, suis-moi, il prend soin de tout. Il sait exactement ce dont tu as besoin. Quand il dit, suis-moi, il n'est pas bête, il n'est pas idiot, il sait exactement ce dont tu as besoin. Et il prendra soin de toi. Tu ne manqueras de rien. Je te garantis que Dieu va te bénir au-delà de ton imagination. Je suis l'expression vivante de la fidélité de Dieu. Dieu va te combler. Je te garantis, quand tu le suis vraiment, il dit, suis-moi. Il dit, suis-moi. N'attends pas en te disant, oh, j'ai un bon travail, je touche tel salaire, comment est-ce que je vais suivre le Seigneur? S'il t'a dit, suis-moi, suis-le. Il sait exactement ce dont tu as besoin. C'est ton Dieu. Et un autre à qui il dit, suis-moi, il dit, laisse-moi d'abord aller d'abord enterrer mon père. Et un autre, il dit, n'est-ce pas, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Regardez-moi, je vais terminer avec ça. Vous êtes, n'est-ce pas, là, vous mettez la main à la charrue. Vous construisez les sillons sur lesquels vous allez jeter votre semence. Et si vous êtes, regardez en arrière, le chemin ne sera pas droit. Vous courez le risque d'aller déjà encore sur les sillons que vous avez déjà bâtis. Vous allez faire plein de désordres dans le champ parce que vous êtes en train de regarder en arrière. Il y a beaucoup de personnes qui servent Dieu le regard en arrière. Il faut regarder devant. On ne peut pas être excellent dans le travail quand on n'est pas consacré à lui. Regardez à celui qui t'a appelé. Jésus a dit, regarde à moi. Ne mets pas la main à la charrue pour regarder en arrière. Il est digne. Il est fidèle. Il est capable. Il a ta vie entre tes mains. Et je te garantis, avant même que tu ne demandes à Dieu quoi que ce soit, il sait déjà ce dont tu as besoin. Et je veux te dire une autre chose. Il y a une joie profonde que ne connaissent que ceux qui ont accepté de payer le prix de la consécration. Une joie terrible que produit le fait de dire non à quelque chose parce qu'on a dit oui à Dieu. À toi le choix. Il dit, je mets au-devant de toi la vie et la mort. À toi de choisir. Mais il dit, je te conseille de choisir la vie et tu vivras. Amen. Que Dieu te garde. Amen. Qu'il garde ton cœur. Qu'il te bénisse. Amen. Qu'il te comble. Amen. Et qu'en sortant d'ici, tu prends ton téléphone, tu appelles 2-3 personnes qui sont nuisibles à ta destinée et que tu mettes fin en disant, je me sépare, je me déconnecte. Que tu arrêtes certains trafics, que tu payes le prix de la renonciation. Et même certains endroits où tu vas souvent, on te retrouve dans les bars la nuit. Arrête d'y aller, ce n'est pas ta place. Paye le prix. Oh pasteur, comment je ferai donc si je n'y vais pas? Bien-aimé, c'est ton prix, c'est ta croix, porte-la. Est-ce que ça va? Tu ne vas pas mourir si tu dors chez toi le soir. Amen. Il y a des endroits indignes qui ne sont pas dignes de te recevoir, n'y mets plus les pieds. Engage-toi radicalement. Marche dans les voies du Seigneur. Mon voisin est venu me voir avec une bonne carte d'invitation en me disant, j'ai ouvert un nightclub. Quand je l'ai regardé, il a compris qu'il avait commis une erreur et que ce n'était pas moi qu'on présentait ce genre d'invitation. Je n'ai même pas parlé, mais même mon regard, quand je me suis tourné pour lui dire, mon ami, est-ce que ça va? Tu es en bonne santé? Tu es malade ce matin ou quoi? Est-ce que ça va bien? Il a compris sans que je ne parle. Il dit, je m'excuse, pasteur. Je m'excuse. J'ai dit, tu sais bien que je suis pasteur et tu oses me présenter cette carte d'invitation. Et moi, je t'ai donné plusieurs cartes pour aller dans un endroit saint, pour t'éviter de descendre en enfer et de mener une vie misérable. Et tu n'as jamais répondu et tu me tends cette carte. Il m'a regardé le regard droit et j'étais heureux d'avoir encore une fois de plus payé le prix de la consécration. Soyez connus des hommes comme quelqu'un qui a payé le prix pour Dieu. Que Dieu vous bénisse.